Hier, la coroner a dévoilé son rapport sur le décès d'Hélène Rowley-Hott-Duceppe, la mère de l'ex-chef bloquiste Gilles Duceppe. Elle était décédée le 20 janvier dernier après 6 heures passées à l'extérieur de sa résidence en pleine tempête de neige. Et il y a plusieurs signes qui ont été visés, il y a plusieurs aspects qui ont été pointés par la coroner pour expliquer cette tragédie. Et ce matin, dans Le Devoir, on apprend que c'est pas un geste isolé, c'est pas un événement isolé. Il y a eu une quinzaine d'aînés qui sont décédés ces dernières années, depuis 2010, là, vraiment, dans des circonstances un peu similaires. Des gens qui sortent de leur maison, de leur résidence, qui se retrouvent à l'extérieur et qui sont pas en mesure de regagner leur appartement, de regagner leur domicile. Tous ces exemples-là sont détaillés dans Le Devoir aujourd'hui, puis c'est vraiment préoccupant comme situation de voir que même en 2019, il y a des épisodes comme ceux-là qui peuvent survenir, malgré tous les systèmes de sécurité qu'on peut avoir, les caméras, les veilles qu'on peut faire, il y a quand même des personnes qui perdent la vie dans des circonstances qui seraient facilement évitables. On va aller en discuter avec Pierre Blain, il est directeur général de l'Union des usagers de la santé du Québec. Bonjour Monsieur Blain.
Oui, bonjour.
Comment expliquez-vous qu'après 15 morts en 9 ans, ce scénario-là se répète encore aujourd'hui?
Tout simplement parce que la vie des personnes âgées n'est pas importante. On l'a vu, on le voit, on le constate. Vous, les médias, vous les rapportez souvent. Malheureusement, on dirait que c'est pas une chose qui est importante. D'ailleurs, je vais même rajouter un petit peu plus. Il y a les rapports d'incidents-accidents et dans les rapports d'incidents-accidents, il y a au-delà de 350 personnes qui meurent dans les CH, pas juste dans les CHSLD, mais dans le réseau de la santé. C'est plus que sur les routes. Et là-dessus, la moitié sont des personnes âgées. Donc, quand on arrive dans une résidence pour personnes âgées, ben là, on a des accidents et malheureusement, on fait que constater le problème.
Monsieur Blain, comment on fait pour obtenir la certification pour opérer une résidence pour personnes âgées? Le mois de demain matin, est-ce que je peux en ouvrir une si je voulais?
Oui, vous pouvez. La différence, c'est qu'il y a différentes catégories. Il y a les résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes. Et là, à ce moment-là, ça répond à certains critères. Toutefois, les critères de sécurité ne sont pas très élevés, puisque on nous dit, entre autres, que pour la nuit, supposons que vous avez des résidences de moins de 100 personnes, ben, oui. Vous avez besoin d'avoir qu'une seule personne sur les lieux. Dans le cas où les résidents, où il y a plus de résidents, ben, c'est 2 employés. Et c'est le cas qui nous préoccupe. Et moi, c'est la préoccupation que j'ai depuis le début avec ça. Mmh. Comment pouvons-nous évacuer 400 personnes avec 2 employés seulement pendant la nuit et une nuit de tempête? Alors, on vient d'avoir un exemple. Et pire, la résidence où était Mme Duceppe, il y avait cette nuit-là 6 employés présents, oui. Et même eux n'ont pas été capables de la protéger.
OK. Pensez-vous qu'il y a une question de formation des employés dans ces tragédies-là, que les gens qui sont là n'ont pas les outils nécessaires pour réagir rapidement dans des circonstances comme une alerte d'incendie, par exemple?
Dans certaines résidences, ça pourrait être le cas. Dans celle-là, je ne suis pas certain. Je pense que c'est plutôt une question de négligence. On présume, étant donné qu'il n'y avait pas eu d'incendie, étant donné qu'il n'y avait eu qu'une alarme pour le monoxyde de carbone, je pense, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de feu. Donc, on a dit, ben, c'est pas important, donc les gens, ils sont pas en danger. Alors, moi, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Alors que, quand on a vu la tragédie de l'Île Verte, où il y a eu 32 personnes qui sont décédées, ben, c'était autre chose. C'était une autre genre de situation. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-ci, ça n'avait pas l'air d'être important. Par conséquent, on n'a pas pris les mesures par la suite pour vérifier que tout le monde était à l'intérieur de la résidence.
Mais M. Blain, quelles sont les solutions immédiates à appliquer pour s'assurer que ce genre de situation-là ne se reproduise plus?
La première des choses, ben, c'est faire le décompte des personnes à l'intérieur de la résidence. On le sait. Moi je me suis assigné avec le directeur général de l'Association des résidences privées qui disait que des gens-là sont chez eux, on n'a pas à intervenir. C'est pas vrai. Ben c'est non. Une résidence pour personnes aînées qui est certifiée. Même, oui, si les gens demeurent dans leur appartement, il faut tout de même savoir s'ils sont présents ou pas. Donc, la première des choses, c'est faire une vérification par la suite, de passer à chacune des portes et de s'assurer, êtes-vous là? Est-ce qu'il y a une réponse? S'il y a une réponse, on est rassuré. S'il n'y a pas de réponse, ben il faut mettre en marche immédiatement des mesures de vérification pour savoir où est la personne.
OK.
Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce que là, vous disiez qu'il semble y avoir un manque de personnel. Les ratios tiennent pas la route selon vous, mais il manque de personnel, d'infirmières, de préposés dans toutes les résidences. Donc c'est pas simple à régler.
Les mesures de sécurité, c'est pas la même chose pour les ratios, parce que supposons pour les personnes semi-autonomes, c'est le genre de service. Le problème est là, c'est la certification indique aussi le type de service qu'on peut donner. Si on donne deux types de services, trois types ou quatre types de services, ce qui est un peu différent. Mais la sécurité, normalement, est là partout. Ce qui est important au niveau de la certification, si je me rappelle bien, c'est l'article 8 ou 9, je ne me souviens pas, la résidence doit avoir un registre de l'état de santé de chacune des personnes. Dans le cas de Mme Duceppe, il y avait un problème d'audition qui avait dû être identifié. Oui. Par conséquent, on aurait dû prendre une mesure particulière pour le faire. Alors, je pense que ça, c'est peut-être pas assez bien revu, et je pense qu'on devrait mieux documenter l'état de santé des personnes qui sont à l'intérieur de ces résidences. Mmh.
Si on embauche plus de personnes, ça veut dire que la masse salariale des résidences va augmenter. Pour les petites résidences, là, l'augmentation des coûts peut avoir des répercussions quand même. On ne veut pas non plus pousser des petites résidences vers la faillite. Pensez-vous qu'on devrait appliquer les mêmes solutions, peu importe la grosseur de la résidence?
Non, vous avez tout à fait raison. Et c'est un point qui est très important. Moi, j'ai à proposer, justement, souvent, plutôt, des genres de comités de résidents. Ça ne veut pas dire qu'une personne est âgée et pas capable de faire des choses. On peut comprendre si la personne n'est pas autonome, mais ce sont des résidences de personnes autonomes. Oui. Je prends l'exemple de mon beau-frère, qui, lui, était un ancien pompier volontaire et qui avait à 80 ans, ben, aurait pu, justement, faire partie d'un comité semblable. Par conséquent, dans ces résidences-là, les gens seraient extrêmement contents de pouvoir participer à la vie et surtout à la sécurité des autres. Okay. Je ne vous dis pas que c'est la solution partout, mais ça pourrait être une des solutions. Cependant, les propriétaires de résidences n'en veulent pas de ce genre de comité-là parce qu'ils ont peur que tout à coup le comité se transforme en chialeux qui vont justement remettre en question d'autres choses. Alors qu'au contraire, je pense que ce serait un plus pour chacune de ces résidences.
Mmh. Pensez-vous que la CAQ va entendre votre appel et va resserrer les critères de certification?
Oui, vous me faites rire, là, parce que justement, je viens de voir une annonce que la CAQ va vouloir revoir. Et on parle de toutes sortes de choses. Mais, et là, vous avez apporté un point, c'est-à-dire, les petites résidences, là, pourront pas avoir de caméras de surveillance. On n'en a même pas dans certains de nos CHSLD. Alors, on ne pourra pas le faire. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer? Je me pose la question. Moi, je pense que c'est le ratio de personnes, effectivement, et plutôt des genres de comités de résidents qui pourraient aider de cette façon-là. Mm-hmm. Ça pourrait même... Vous voyez, on l'a dans les petits villages, on l'a dans certains endroits, les pompiers volontaires. Oui. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on ait, justement, dans une communauté, ce genre de choses-là. D'ailleurs, la ministre Blais disait qu'elle voulait que les communautés, que les CHSLD et les résidences s'ouvrent plus vers le public. Ben, ça serait une bonne façon de le faire.
Merci beaucoup, M. Blain, pour les dernières minutes.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Pierre Blain, il est directeur général de l'Union des usagers de la santé du Québec. C'est vraiment l'argent qui nerf la guerre là-dedans. Il ne faut pas non plus mettre un poids trop élevé sur les petites résidences privées. Puis, surtout pour les aînés qui en font un milieu de vie, de les déraciner. Parce qu'il y en a des résidences qui vont dire « Si vous n'êtes pas content, là, allez ailleurs. » Ça fonctionne pas nécessairement comme ça, passé un certain âge. On déménage plus comme on déménageait auparavant. Puis on parlait de l'île verte dans notre intervention avec M. Blain. 5 ans après l'île verte, en janvier dernier, Radio-Canada avait vérifié il y a combien de résidences privées qui ont des gicleurs maintenant parce qu'ils ont jusqu'au 2 décembre 2020 pour se conformer au nouveau règlement. Ben, il y a encore pratiquement une résidence sur deux qui l'a pas encore. Puis l'exemple qui est cité, la raison pour laquelle c'est pas fait encore, c'est l'argent.
C'est
toujours l'argent. Donc, l'idée d'un comité d'usagers, je trouve pas ça bête de voir qu'une personne qui revient à l'intérieur puisse cogner aux portes du voisin. Puis si jamais il y a quelqu'un qui répond pas, ben tu peux avertir un responsable. La chaîne d'information peut prendre 10, 15, 20 minutes, mais quand même, tu es conscient qu'il manque quelqu'un à l'appel. Puis ça engendre pas des coûts supplémentaires.
J'écoutais dans l'œil du dragon l'autre jour, puis il y avait un monsieur qui est un ancien directeur de résidence pour aînés. Et qui avait développé un système où il y avait comme des pictogrammes. Chaque appartement à côté de chaque porte ou sur la porte, là, il y avait un système avec des pictogrammes puis un système de code de couleur très simple. interchangeable, mais qui en disait sur l'état de la personne. Oui. Est-ce que la personne a une marchette ou une canne
pour se déplacer? On parlait de surdité pour la mère de M. Duceppe.
C'est ça. Est-ce que la personne a des problèmes d'audition, des problèmes de vue, démence, maladie d'Alzheimer, ces choses-là. Et tout ça était comme était compris dans son système de pictogrammes et de couleurs, qui faisait en sorte que d'emblée, quand tu arrivais devant une porte, puis là... À un moment donné aussi, ça donne une chance au niveau de la sécurité, son système, mais juste pour la façon dont les préposés, les infirmières agissent avant d'entrer chez quelqu'un. Là, ils arrivent, pop, et voilà, ils savent exactement à quel type de personne ils ont affaire. Ils sont capables d'adapter leurs interventions comme ça. Imagine si dans un système où justement il faut que tu fasses le décompte des personnes, tu arrives chez quelqu'un puis tu vois que cette personne-là est atteinte de démence ou d'Alzheimer. Mais tu vas pas défoncer la porte. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un système qui existe, mais encore faut-il que tu l'achètes puis que tu l'installes.
Non, oui, ça se ferait pas à coût nul, mais quand même, ce serait pas si dispendieux que ça.
C'est pas une question de centaines de milliers de dollars. Là.
Oui, donc, de voir ça ce matin, je me mettais dans la peau des gens qui ont des parents en résidence privée ou qui sont eux-mêmes dans des résidences. Là. C'est quand même préoccupant comme situation. On a beau avoir des outils à notre disposition, si on les utilise pas ou si on les utilise mal, puis ça donne des tragédies comme celle-là, le risque zéro n'existe pas. Mais je suis persuadé qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement.